La sauvage apprivoisée, acte 2, scène 1. Toujours à Padoue, chez Baptiste. Entre Catarina traînant Bianca. Bianca. Bonne sœur, ne vous faites pas à vous-même l'injure de me traiter en prisonnière et en esclave. Je trouve cela indigne. Quant à cette garniture, lâchez-moi les mains et je vais l'arracher. Même, j'ôterai toute ma parure jusqu'à ma jupe. Oui, tout ce que vous me commanderez, je le ferai, tant je connais mes devoirs envers mon aîné. Catarina. Entre tous tes galants, je te somme de me dire celui que tu aimes le mieux, songe à ne rien dissimuler. Bianca. Croyez-moi, ma sœur, parmi tous les hommes vivants, je n'ai pas encore vu un visage spécial que je puisse préférer à un autre. Catarina. Mignonne, tu mens. N'est-ce pas Hortensio? Bianca. Si vous avez du goût pour lui, ma sœur, je vous jure que je plaiderai moi-même pour vous, afin que vous l'obteniez. Catarina. Oh, c'est qu'apparemment vous préférez la richesse. Vous voulez avoir Grémio pour qu'il vous fasse belle. Bianca. Est-ce pour lui que vous me jalousez ainsi? Allons, vous plaisantez, et je m'aperçois à présent que vous n'avez fait que plaisanter tout ce temps. Je t'en prie, sœur Cato, lâche-moi les mains. Catarina. Si ceci est une plaisanterie, le reste en était une. Elle la frappe. Entre Baptiste. Baptiste. Eh bien, qu'est-ce à dire, donzelle? D'où vous vient cette insolence? Bianca, éloigne-toi. Pauvre fille, elle pleure. Va reprendre ton aiguille et n'aie plus affaire à elle. Fille pécore d'humeur diabolique, pourquoi lui fais-tu du mal à elle qui ne t'en a jamais fait? Quand t'a-t-elle seulement contrariée par une parole amère? Catarine. Son silence m'injurie et je veux me venger. Elle court sur Bianca. Baptiste s'interpose. « Quoi? Sous mes yeux? Bianca, rentre chez toi. » Bianca sort. Catarina. « Vous ne pouvez donc plus me souffrir. Ah, je le vois à présent. C'est elle qui est votre trésor. Et il faut qu'elle ait un mari. Moi, il faut que je danse pieds nus le jour de sa noce. Et que pour l'amour d'elle, je mène des singes en enfer. Ne me parlez plus. Je vais m'enfermer et pleurer jusqu'à ce que je trouve une occasion de me venger. » Elle sort. Baptiste. Y a-t-il eu jamais un homme aussi affligé que moi? Mais qui vient là? Entre Grémio, avec Lucentio vêtu comme un pauvre homme, puis Petruchio, avec Hortensio en tenue de musicien, puis Tranio, avec Biondello, portant un luth et des livres. Grémio. Bonjour, voisin Baptiste. Baptiste. Bonjour, voisin Grémio. Dieu vous garde, messieurs. Petruchio. Et vous aussi, cher monsieur. Pardon, n'avez-vous pas une fille nommée Catarina, jolie et vertueuse? Baptiste. J'ai une fille nommée Catarina, monsieur. Grémio, bas à Petruchio. Vous êtes trop brusque. Allez-y méthodiquement. Petruchio, bas à Grémio. Vous me faites injure, signor Grémio. Laissez-moi faire. Haut à Baptiste.
Je suis, monsieur, un gentilhomme de Vérone, ayant ouï parler de la beauté de votre fille, de son esprit, de son affabilité, de sa pudique modestie, de ses qualités merveilleuses et de sa douceur de caractère. J'ai pris la liberté de m'introduire sans façon chez vous pour vérifier de mes yeux un récit qui m'a été fait si souvent. Et pour mon entrée en galanterie, je vous présente un homme à moi. Montrant Hortensio. Très fort en musique et en mathématiques, pour compléter l'éducation de votre fille, à qui ces sciences, je le sais, ne sont pas inconnus. Acceptez-le pour ne pas m'offenser. Son nom est Licio. Il est né à Mantoue.
Baptiste. Vous êtes le bienvenu, monsieur. Et lui aussi, à votre considération. Mais quant à ma fille Catarina, je sais qu'elle n'est pas votre fête et j'en suis désolé.
Petruchio. Je vois que vous ne voulez pas vous séparer d'elle ou que, du moins, mon alliance vous déplaît.
Baptiste. Ne vous méprenez pas, monsieur. Je parle comme je pense. « D'où êtes-vous, monsieur? Pourrais-je vous appeler par votre nom ?»«
Petruchio. »«
Petruchio est mon nom. Je suis le fils d'Antonio, un homme bien connu dans toute l'Italie. »«
Baptiste. »«
Je le connais bien. Soyez le bienvenu à sa considération. »«
Grémio. »«
Pour vous épargner les paroles, permettez, Petruchio, que nous autres, pauvres pétitionnaires, nous nous exprimions à notre tour.
Peste, vous êtes merveilleusement pressé. »
Petruchio. « Oh, pardonnez-moi, signor Grémio, je tiendrai à finir. »
Grémio. Je n'en doute pas, monsieur, mais vous gâtez votre cause. Voisin, ce présent de monsieur vous a été fort agréable, j'en suis sûr. Voulant vous faire la même gracieuseté, à vous qui, plus que personne, m'avez obligé, je m'empresse de vous présenter ce jeune savant. Montrant Lucentio, qui a longtemps étudié à Reims et qui est aussi fort en grec, en latin et en d'autres langues que l'autre en musique et en mathématiques. Il se nomme Cambio. Je vous en prie, acceptez ses services.
Baptista.
Mille remerciements, signor Grémio. Bienvenue, bon Cambio.
Apercevant Tranio.
Mais vous, mon aimable monsieur, vous avez l'allure d'un étranger. Prendrai-je la liberté grande de vous demander les motifs de votre venue?
Tranio.
C'est à vous, monsieur, de me pardonner ma liberté grande. Étranger dans cette cité, j'ose prétendre à la main de votre fille, la belle et vertueuse Bianca. Je n'ignore pas votre ferme résolution de pourvoir d'abord sa sœur aînée. L'unique grâce que je vous demande, c'est, dès que vous connaîtrez ma famille, de me faire le même accueil qu'aux autres galants et de m'accorder un libre accès aussi cordialement qu'à eux. Pour concourir à l'éducation de vos filles, je vous offre le simple instrument que voici et cette petite collection de livres grecs et latins. Ils auront une grande valeur si vous les acceptez.
Baptista.
Lucentio est votre nom? De quel pays, je vous prie?
Tranio.
De Pise, monsieur, je suis fils de Vicentio.
Baptista.
Un puissant personnage de Pise. Je le connais beaucoup de réputation. Vous êtes le très bienvenu, monsieur.
À Hortensio.
Vous, prenez ce luth.
À Lucentio.
Et vous, ce paquet de livres. Vous allez voir vos élèves sur le champ. Oh là, quelqu'un!
Entre un valet.
Marot, conduis ces messieurs près de mes filles et dis-leur à toutes deux que ce sont leurs professeurs. Recommande-leur de les bien accueillir.
Le valet sort avec Hortensio, Lucentio et Biondello.
Nous allons nous promener un peu dans le jardin et ensuite à table. Vous êtes vraiment les bienvenus. Je vous prie de tous vous considérer comme tels.
Petruchio.
Signor Baptista, mon affaire veut qu'on se hâte et je ne puis tous les jours venir faire ma cour. Vous connaissiez bien mon père. Vous le revoyez en moi, l'héritier unique de ses terres et de ses biens, qui, entre mes mains, ont plutôt prospéré que décru. Dites-moi donc, si j'obtiens l'amour de votre fille, quelle dot elle m'apportera en mariage?
Baptista.
Après ma mort, la moitié de mes terres et, dès à présent, un capital de 20 000 écus.
Petruchio.
En retour de cette dot, si elle me survit, je lui assure comme douairière toutes mes terres et tous mes revenus. Rédigeons donc les clauses du contrat, pour que nos conventions soient bien observées de part et d'autre.
Baptista.
Oui, quand le point principal sera obtenu, c'est-à-dire l'amour de ma fille, car tout dépend de là.
Petruchio.
Bah, c'est la moindre des choses, car je vous en préviens, mon père, je suis aussi obstiné qu'elle est hautaine. Et quand deux feux violents se rencontrent, ils consument l'objet qui alimente leur furie. Un faible vent ne fait que grandir une faible flamme, mais l'ouragan furieux éteint un incendie. C'est un ouragan que je serai pour elle, et il faudra bien qu'elle me cède, car je suis énergique et je ne fais pas ma cour en enfant.
Baptista.
Puisses-tu lui faire la cour, et puisses-tu réussir, mais ne sois pas désarmé par quelques malheureux mots.
Petruchio.
Je suis à l'épreuve, comme les montagnes que les vents ne sauraient ébranler quand ils souffleraient continuellement.
Rentre Hortensio, la tête en sang.
Baptista. Eh bien, mon ami, pourquoi donc es-tu si pâle?
Hortensio.
Si je suis pâle, c'est de peur, je vous assure.
Baptista.
Quoi? Est-ce que ma fille ne ferait pas une bonne musicienne?
Hortensio.
Je crois qu'elle fera plutôt un soldat. Le fer peut résister avec elle, mais pas les luttes.
Baptista.
Comment tu ne peux donc la rompre aux luttes?
Hortensio.
Certes non, car c'est elle qui a rompu le luth sur moi. Je lui disais simplement qu'elle se trompait de touche, et je lui pliais la main pour lui apprendre le doigté, quand dans un excès d'impatience diabolique, « Des touches » s'écrie-t-elle, « Vous appelez ça des touches ? Eh bien, je vais les faire jouer !» Et à ces mots, elle m'a frappé si fort sur la tête que mon crâne a traversé l'instrument. Et ainsi, je suis restée quelque temps pétrifiée, comme un homme au pilori, ayant un luth pour carcan, tandis qu'elle me traitait de misérable racleur, de musicien manqué et de 20 autres noms injurieux, comme si elle avait appris une leçon pour mieux m'insulter.
Petruchio.
Ah, par l'univers, voilà une robuste donzelle. Je l'en aime 10 fois davantage. Oh, combien il me tarde d'avoir avec elle une petite causerie.
Baptista à Hortensio.
Allons,
Viens avec moi et ne sois pas si déconfit. Poursuis tes leçons avec ma fille cadette. Elle a des dispositions et elle est reconnaissante du bien qu'on lui fait. Seigneur Petruchio, voulez-vous venir avec nous ou bien vous enverrai-je ma fille Katharina?
Petruchio.
Envoyez-la, je vous prie. Je l'attendrai ici.
Sortent Battista, Gremio, Tranio et Hortensio.
Petruchio.
Seul.
Dès qu'elle viendra, je vais lui faire lestement ma cour. Supposons qu'elle veut s'y faire. Eh bien, je lui dirai tout net qu'elle chante aussi harmonieusement qu'un rossignol. Supposons qu'elle fasse l'amour, je lui déclarerai qu'elle a l'air aussi riant que la rose du matin encore baignée de rosée. Si elle reste muette et s'obstine à ne pas dire un mot, alors je vanterai sa volubilité, et je lui dirai que son éloquence est entraînante. Si elle me dit de déguerpir, je la remercierai, comme si elle m'invitait à rester près d'elle une semaine. Si elle refuse de m'épouser, je lui demanderai tendrement quand je dois faire publier les bans et quand nous devons nous marier.
Mais la voici. Allons, Petruchio, parle.
Entre Katharina.
Bonjour, Cato, car c'est votre nom, m'a-t-on dit.
Katharina.
Vous avez entendu, mais un peu de travers. Ceux qui parlent de moi me nomment Katharina.
Petruchio.
Vous vous trompez sur ma parole, car on vous appelle Cato tout court. La bonne Cato et parfois la hargneuse Cato. Mais enfin, Cato, la plus jolie Cato de la chrétienté.
Cato de la halle au gâteau, ma friande Cato. Car qui dit gâteau dit friandise. Cato, ma consolation. Cato, écoute-moi. Ayant entendu dans toutes les villes vanter ta douceur, célébrer tes vertus et chanter ta beauté, bien moins cependant qu'elle ne le mérite, j'étais portée à te rechercher pour femme.
Katharina.
Portée. À merveille. Eh bien que le diable qui vous a portée vous remporte. Vous m'avez tout de suite eu l'air d'un meuble transportable.
Petruchio.
Qu'est-ce à dire d'un meuble?
Katharina.
Oui, d'une chaise percée.
Petruchio.
Tu as dit juste. Assieds-toi donc sur moi.
Katharina.
Les ânes sont faits pour porter, et vous aussi.
Petruchio.
Les femmes sont faites pour porter, et vous aussi.
Katharina.
Je ne suis pas la rosse qui vous portera, si c'est moi que vous avez en vue.
Petruchio.
Hélas, bonne Cato, je ne te chargerai pas trop, car te sachant jeune et légère.
Katharina.
Trop légère pour qu'un rustre comme vous m'attrape, et néanmoins je pèse ce que je dois peser.
Petruchio.
Oui, et si l'on vous baise?
Katharina.
Bien dit pour une buse.
Petruchio.
Oh, tourterelle au faible vol, une buse te prendra donc.
Katharina.
Oui, pour une tourterelle, et il trouvera un oiseau de proie.
Petruchio.
Allons, allons, ma guêpe, vraiment, vous vous irritez trop.
Katharina.
Si je tiens de la guêpe, gare à mon aiguillon.
Petruchio.
J'en serai quitte pour l'arracher.
Katharina.
Oui, si un imbécile est capable de trouver où il est.
Petruchio.
Qui ne sait où la guêpe porte son aiguillon? Au bout de son corsage.
Katharina.
Au bout de ses lèvres.
Petruchio.
Les lèvres de qui?
Katharina.
Peut-être les vôtres, si vous avez un corps sage. Adieu.
Petruchio la retenant.
Un corps sage? Mes lèvres trouveraient vite le vôtre. Allons, revenez, bonne Cato. Je suis un gentilhomme.
Katharina.
C'est ce que je vais voir.
Elle lui donne un soufflet.
Petruchio. Je jure que je vous le rendrai si vous recommencez.
Katharina.
Vous y perdriez vos armes. Si vous frappez une femme, vous n'êtes pas gentilhomme. Et si vous n'êtes pas gentilhomme, les armes vous manqueront.
Petruchio.
Seriez-vous un héros, Catherine? Oh, alors mettez-moi dans votre armorial.
Katharina.
Quel est votre signet? Une crête de coq?
Petruchio.
Un coq sans crête, pourvu que Cato soit ma poule.
Katharina.
Je ne veux pas de vous pour mon coq. Vous chantez trop comme un chapon.
Petruchio.
Allons, Cato, allons. Ne montrez pas tant d'aigreur.
Katharina.
C'est mon air habituel devant un cornichon.
Petruchio.
Il n'y a pas de cornichon ici. Renoncez donc à votre aigreur.
Katharina.
Il y en a un, il y en a un.
Petruchio.
Alors montrez-le-moi.
Katharina.
Ah, si j'avais un miroir.
Petruchio.
Vous voulez dire que vous me montreriez mon visage?
Catarina.
Pas mal deviné pour un si jeune gars.
Petruchio.
Par Saint-Georges, décidément, je suis trop jeune pour vous.
Catarina.
Vous êtes pourtant bien flétri.
Petruchio, lui prenant la taille.
Ce sont les soucis.
Catarina, essayant de se dégager.
Je ne m'en soucie guère.
Petruchio, la retenant.
Voyons, écoutez-moi, Cato. En vérité, vous ne vous échapperez pas ainsi.
Catarina.
Je vais vous exaspérer si je reste. Laissez-moi.
Petruchio.
Non, pas du tout. Je vous trouve plus que gentille. On m'avait dit que vous étiez brusque et morose et hargneuse. Et je vois que tous ces récits étaient menteurs. Car tu es charmante, enjouée, plus que courtoise. Tu as la parole lente, mais suave comme une fleur de printemps. Tu ne sais pas faire la moue, tu ne sais pas regarder de travers, ni te mordre la lèvre comme font les filles en colère. Tu ne prends point plaisir à contredire, mais tu accueilles tes soupirances avec douceur, avec un langage gracieux, caressant et affable. Pourquoi le monde prétend-il que Catarina est boiteuse? Ô monde calomniateur! Catarina est droite et svelte, comme la tige du coudrier. Elle est brune, comme la noisette et plus douce que son amande. Oh, que je te vois marcher! Tu ne boites pas?
Catarina.
Imbécile! Va donner des ordres à ceux que tu paies!
Petruchio.
Diane a-t-elle jamais embelli la forêt, autant que Catarina part cette chambre avec son élégance princière? Oh, sois Diane, et que Diane devienne Catarina, et qu'alors Catarina soit chaste, et que Diane devienne tendre.
Catarina.
Où avez-vous étudié ce beau discours?
Petruchio.
C'est un impromptu, né de mon esprit.
Catarina.
Il faut que l'auteur ait de l'esprit pour que l'œuvre en ait.
Petruchio.
Ne suis-je pas spirituel?
Catarina.
Oui, alors tenez-vous chaudement.
Petruchio.
Morbleu, c'est mon intention, suave Catherine, dans ton lit. Et sur ce, laissant de côté tout ce babille, je m'explique en termes clairs. Votre père consent à ce que vous soyez ma femme. Votre dot est réglé. Et bon gré mal gré, je vous épouse. Croyez-moi, Cato, je suis le mari qu'il vous faut. Car par cette lumière qui me fait voir ta beauté qui me rend si amoureux de toi, tu n'épouseras pas un autre homme que moi. Car je suis né, Cato, pour t'apprivoiser. Et pour faire de toi, au lieu d'une chatte sauvage, une Cato aimable comme toutes les Cato familières. Voici votre père. N'allez pas refuser. Il faut que j'ai Catarina pour femme, je l'aurai.
Rentre Battista, Gremio et Tranio.
Battista. Eh bien, signor Petruchio, comment ça va-t-il avec ma fille?
Petruchio.
Parfaitement comme de juste. Parfaitement. Il était impossible que je ne réussisse pas.
Battista.
Eh bien, Catherine, ma fille, avez-vous toujours l'humeur sombre?
Catarina.
Vous m'appelez votre fille. Sur ma parole, vous me donnez une belle preuve de tendresse paternelle en voulant me marier à un demi-lunatique, à un ruffian sans cervelle, à un moulin à serment qui croit vous en imposer avec ses jurons.
Petruchio.
Beau-père, voici le fait. Vous et tous les gens qui parlent d'elle, vous vous méprenez sur son compte. Si elle est hargneuse, c'est par politique. Car loin d'être arrogante, elle est modeste comme la colombe. Loin d'être violente, elle est paisible comme le matin. Pour la patience, c'est une seconde griselle et une Lucrèce romaine pour la chasteté. Bref, nous nous sommes si bien accordés que les noces sont fixées à dimanche.
Catarina.
Je te verrai plutôt pendre dimanche.
Gremio.
Tu entends, Petruchio? Elle a dit qu'elle te verra plutôt pendre.
Tranio à Petruchio.
Est-ce là tout votre succès? Alors, adieu notre pacte.
Petruchio.
Patience, messieurs. Je la choisis pour moi-même. Si elle et moi nous sommes satisfaits, que vous importe à vous? Il était convenu entre nous deux, quand nous étions seuls, qu'elle continuerait à être hargneuse en compagnie. Je vous dis que c'est incroyable comme elle m'aime. Oh, la tendre Catherine! Elle se pendait à mon cou, elle me prodiguait baiser sur baiser, faisant serment sur serment qu'en un clin d'œil, elle s'était éprise de moi. Ah, vous êtes des novices! C'est merveille de voir comment dans le tête-à-tête, le plus chétif galant peut apprivoiser la plus intraitable sauvage. Donne-moi ta main, Cato. Je vais à Venise, acheter le trousseau nécessaire pour la noce. Préparez la fête, beau-père, et invitez les convives. Je veux être sûre que ma Catherine sera belle.
Baptista.
Je ne sais que dire, mais donnez-moi vos mains. Que Dieu vous envoie la joie, Petruchio. C'est une affaire conclue.
Gremio et Tranio.
Amen. Nous servirons de témoins.
Petruchio.
Adieu, beau-père. Adieu, femme. Adieu, messieurs. Je pars pour Venise. Dimanche viendra vite. Nous aurons des bagues, une belle parure, toutes sortes de choses. Ah, embrasse-moi, Cato. »
Il l'embrasse. « Nous serons mariés dimanche. » Petruchio et Catarina s'en vont par des côtés opposés.
Grêmio. « Jamais mariage a-t-il été bâclé si vite. »
Baptista.
« Ma foi, messieurs, je joue le rôle d'un négociant qui s'aventure follement dans une entreprise désespérée. »
Tranio.
« C'était une denrée qui se détériorait près de vous. Maintenant, ou elle vous rapportera un bénéfice, ou elle périra sur la mer. »
Baptista.
« Le bénéfice que je cherche en cette affaire, c'est la paix. »
Grêmio.
Il faut avouer qu'il a fait là une conquête étrangement pacifique. Mais maintenant, Baptista, parlons de votre fille cadette. Voici enfin le jour que nous avons si longtemps attendu. Je suis votre voisin et je suis le premier amoureux en date.
Tranio.
Et moi, je suis un soupirant qui aime Bianca plus que des paroles ne peuvent l'exprimer et vos pensées le concevoir.
Grêmio.
Marmouset, tu ne saurais aimer aussi tendrement que moi.
Tranio.
Barbe grise, ton amour n'est que de la neige.
Grêmio.
Le tien n'est que de la mousse. Arrière, Freluquet. La maturité, c'est le fruit.
Tranio.
Mais la jeunesse aux yeux des belles, c'est la fleur.
Baptiste.
Calmez-vous, messieurs. Je vais arracher ce différend. C'est par des fêtes qu'il faut gagner le prix. Et celui de vous deux, qui peut assurer à ma fille la plus grosse dot, aura l'amour de Bianca.
Dites, signor Grêmio, que pouvez-vous lui assurer?
Grêmio. Et d'abord, comme vous savez, ma maison de ville est richement fournie de vaisselle d'or et d'argent, de bassins et d'aiguières pour laver ses mains délicates. Mes courtines sont toutes des tapisseries de tir. J'ai rembourré d'écume mes coffres d'ivoire. Tentures de haute lisse, courte pointe, vêtements, rideaux et lambrequins coûteux. Linge fin, coussin de turquie rehaussé de perles, dentelle de Venise lamée d'or, service d'étain et de cuivre. J'ai dans des caisses de cyprès tout ce qui est nécessaire à une maison et à un ménage. En outre, dans ma ferme, j'ai 100 vaches à l'abreuvoir, 120 bœufs gras à l'étable et tout le reste en proportion. Je suis moi-même chargée d'années, je dois le confesser, mais que je ne meure demain, et tout cela est à elle, si ma vie durant elle consent à être à moi.
Tranio.
Il n'y a de bon dans tout cela que la conclusion.
À Baptista.
Monsieur, écoutez-moi. Je suis l'unique fils et héritier de mon père. Si je puis avoir votre fille pour femme, je lui laisserai dans les murs de l'opulente Pise 3 ou 4 maisons aussi belles que celles qu'a dans Padoue le vieux signor Grêmio, sans compter une rente de 2000 ducats, en bonne terre, qui constituera son douairière.
Eh bien, signor Grêmio, êtes-vous pincé?
Grêmio. Une rente de 2000 ducats en terre? Tout mon fonds ne se monte pas à cette somme. Mais elle aura en outre un bâtiment qui est maintenant à l'ancre dans la rade de Marseille. Eh bien, ce bâtiment-là vous coupe la respiration.
Tranio.
Grêmio. Il est connu que mon père n'a pas moins de 3 grands navires, plus de galéas et 12 belles galères. Je les lui assure, et je double vos offres, quelles qu'elles soient.
Grêmio.
J'ai tout offert, je n'ai pas d'avantage, et je ne puis donner que ce que j'ai. Si vous m'agréez, elle mourra avec tout ce que je possède.
Tranio à Baptiste.
La fille m'appartient, à l'exclusion de tout autre, d'après votre solennelle promesse. Grêmio est évincé.
Baptiste.
Je dois l'avouer, votre offre est la plus considérable, et si votre père veut bien lui garantir cette fortune, elle est à vous. Autrement, vous voudrez bien m'excuser, car si vous mouriez avant lui, où serait son derrière?
Tranio.
C'est là une argutie. Il est vieux, je suis jeune.
Grêmio.
Est-ce que les jeunes gens ne peuvent pas mourir aussi bien que les vieux?
Baptiste.
Il suffit, messieurs. Voici ma résolution. Ah, vous savez que dimanche prochain, ma fille Catherine doit se marier. Eh bien, le dimanche suivant,
à Tranio,
vous épouserez Bianca si vous obtenez la garantie de votre père. Sinon, elle est au signor Grêmio. Et sur ce, je prends congé de vous en vous remerciant tous les deux.
Il sort.
Grêmio. Adieu, cher voisin.
À Tranio.
Maintenant, je ne vous crains pas. Morbleu, jeune farceur, votre père serait bien niais de vous donner tout ce qu'il a pour que, sur ses vieux jours, vous le renvoyiez au bas bout de la table. Bah, c'est un enfantillage. Un vieux renard italien n'est pas si débonnaire, mon garçon.
Il sort. Tranio, seul.
Peste soit de ta peau, flétri vieux malin. Heureusement que j'ai riposté par le plus gros atout. Je me suis mis en tête de faire le bien de mon maître. Je ne vois pas pourquoi le prétendu Lucentio ne se ferait pas un prétendu père appelé Vincentio. Chose merveilleuse. Ordinairement, ce sont les pères qui font leurs enfants.
Mais dans ce cas amoureux, grâce à mon adresse, c'est l'enfant qui fait le papa. » Il sort.